petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Alors bonjour, dans ce mois des droits de la femme, aujourd'hui j'ai choisi une femme. Une femme qui n'est peut-être pas très connue, ou alors si elle est connue, elle n'est peut-être pas connue avec un lien avec Périgueux. Et bien c'est vraiment un coup de cœur parce que cette femme, vous allez voir, elle a énormément de valeur. Elle a eu beaucoup de résistance dans sa vie et son choix s'est porté pour la défense des femmes, mais aussi celle des enfants. Alors, il s'agit de Suzanne Lacor. C'est une femme, en plus, qui va rentrer, une des premières femmes au gouvernement. C'est une institutrice, je suis fille d'institutrice aussi, c'est pour ça, c'est un petit coup de cœur, militante, syndicaliste, c'est une femme politique, socialiste, pour dresser le paysage, et c'est une des premières femmes à faire partie donc, du gouvernement du Front populaire en qualité de sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance en 1936. Dans un temps quand même, je me permets de vous le rappeler, mais vous le savez, où les Françaises ne peuvent être ni électrices ni élues. Alors, Suzanne est née le 30 mai 1875 dans un petit hameau, le hameau du Glandier, à Bessac, en Corrèze, à la limite de notre département, et elle est issue d'une famille modeste. Son père est charpentier et il va devenir entrepreneur de travaux publics, mais il décède malheureusement trop tôt, en 1842, en laissant sa veuve avec ses 6 enfants à élever. Donc déjà une situation qui n'est pas très facile pour cette petite Suzanne, et elle va donc être bien soumise à des contraintes un peu compliqué, mais va traverser ces années d'une manière quand même très forte, puisque elle va avoir une possibilité d'entrer dans la vie autrement. Sa mère, effectivement, se remarie en 1886 avec un cultivateur propriétaire, avec qui elle aura 3 autres enfants, d'où aussi ce paysage d'adolescence et d'enfance au milieu des enfants. Et elle va accéder à ce moment-là à une certaine bourgeoisie par le biais du remariage de sa mère. En fait, pour dresser aussi son paysage d'enfance, elle va recevoir quand même les premiers sacrements avant de fréquenter un pensionnat catholique du Bugue. Voilà, elle rentre en Dordogne à ce moment-là, et ensuite, elle entre à l'école normale d'institutrice de Périgueux, actuellement l'espace culturel François Mitterrand. Elle est dans la promotion de 1891, et elle va obtenir son brevet supérieur en 1894. Elle est d'abord institutrice et elle va se donner avec dévouement à l'enseignement populaire et aux œuvres qui vont graviter autour de lui, de cet enseignement, menant son activité politique en parallèle de sa carrière d'enseignante. Donc déjà, elle est très dans l'équilibre, dans sa volonté de suivre ses idées et en même temps d'être dans l'action de son métier qu'elle ne cessera d'exercer, vous verrez tout à l'heure, jusqu'à la fin de sa vie. Alors elle va exercer en Dordogne d'abord à Thenon, pays de Jacques-le-Croquant, de 1894 à 1900, puis à Fosmagne, donc tout près d'ici, de 1900 à 1903. Et arrivée à Aja en 1903, elle y prend sa retraite en 1930, après avoir créé et animé une cantine scolaire, une bibliothèque, un cours d'hygiène et de puériculture. Suzanne n'est pas en retard, Suzanne est engagée. Suzanne est engagée dans l'enseignement, mais aussi dans le partage et dans la vie sociale de cet enseignement dans les écoles, et c'est ce qui est très important. Alors, en même temps, pour avoir plus de force, en parallèle à sa carrière dans l'enseignement, Suzanne Lacor va soutenir la cause socialiste. Et en 1906, elle va adhérer à la section française de l'Internationale ouvrière. Elle est la seule femme inscrite à ce parti en Dordogne, sous le pseudonyme de Suzon. C'est toujours la même, mais elle a un pseudonyme pour être aussi plus libre. Elle écrit des articles très engagés contre le capitalisme et pour la révolution sociale, bien dans la mouvance à laquelle elle appartiendra de 1906 à 1914. Donc on voit déjà, cette Suzanne née dans un milieu très modeste, 6 enfants, sa mère qui se remarie, 3 enfants, elle accède à la bourgeoisie, mais elle va rester dans ses racines profondes de sa toute petite enfance. Elle ne va jamais oublier d'où elle vient et elle va être en mesure, par sa force et son engagement, d'amener des améliorations et surtout des véritables créations dans l'enseignement. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et durant la Première Guerre mondiale, un fait et une étape pour elle aussi emblématiques, elle s'engage pour la solidarité nationale et la défense de la patrie. Alors, après le congrès de Tours, qui va voir naître, pour resituer un petit peu aussi la géographie politique de l'époque, la naissance donc du Parti communiste en 1920, elle participe donc à la reconstruction de la section française de l'Internationale ouvrière. Vous vous souvenez, elle y avait adhéré en 1906. Et elle va se consacrer à la question féminine et à la création, en 1931, du Comité national des femmes socialistes, dont elle est une des principales figures. Et la voilà, en nouveau, dans notre environnement de Périgord, entre Paris, entre Périgueux, eh bien, Suzanne est toujours présente. Et à la tête de ce comité, elle écrit pour l'hebdomadaire Le Travailleur du Périgord. C'est aussi un fait très important. Le 4 juin 1936, avec 2 autres femmes, Cécile Brunswick, qui fut sous-secrétaire à l'éducation nationale du 5 juin 1936 au 21 juin 1937, et Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, la physicienne, qui, Irène, fut sous-secrétaire d'État à la direction scientifique du 4 juin au 26 septembre 1936. Eh bien, elle va devenir une des 3 femmes ministres du gouvernement du Front populaire et occupera la fonction de sous-secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Je ne sais pas si tout le monde le savait, jusqu'au 21 juin 1937. C'est pour cela que cette femme engagée est terriblement importante. Durant cette année passée dans le premier gouvernement de Léon Blum, elle conçoit une réforme de l'assistance publique et un ensemble de mesures relatives aux enfants déficients, défavorisés ou abandonnés, ainsi qu'un travail envers leurs loisirs. Et c'est cela que je trouve absolument extraordinaire, parce qu'on a un lien aussi aujourd'hui très contemporain avec tous ces jeunes réfugiés également. Et elle va mettre en place des visiteuses sociales et elle s'attache à la formation des jeunes travailleuses. vous n'aurez pas à diriger, mais à animer. Vous aurez surtout à être là, car votre présence seule signifie beaucoup de choses, lui confie le chef du gouvernement. Peut-être moins de charges administratives que nous avons aujourd'hui pour se consacrer pleinement à cette magnifique cause pour faire évoluer les choses. Toujours investie pour les droits des femmes, elle va écrire plusieurs ouvrages, dont « Les femmes dans l'agriculture ». Eh oui, donc elle est très en avance. Elle est, vous savez qu'elle est née dans cette campagne, son père charpentier, mais elle est très liée à l'agriculture. Cet écrit va paraître en 1938 et en même temps, on va aussi connaître un ouvrage très intéressant. En 1945, c'est « L'émancipation de la femme ». Eh oui, déjà, « L'émancipation de la femme ». Alors, après son passage au gouvernement, Suzanne Lacor va continuer de militer en publiant des brochures, en écrivant des articles de presse et en prononçant des discours, des articles de presse et pour la presse. D'où ce matin l'intérêt de la présenter dans cette belle émission. Et elle défend, alors là, en particulier l'école maternelle et l'éducation dès le plus jeune âge. L'enfant devient sa principale préoccupation. À la fin de sa vie, elle y consacre son dernier livre, « Enfance d'abord ». Je vous conseille vraiment de lire ses écrits. On est en 1960, vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez fait le cheminement, est-ce que j'ai été assez précise, de son âge? Elle a 85 ans. Voilà Suzanne. Et dans le domaine de la protection de l'enfance, les efforts de cette pionnière engagée en vue d'améliorer la prise en charge des jeunes délinquants, ont ouvert, eh oui, la voie à l'abolition en 1945 des maisons de correction où les enfants et les adolescents étaient maltraités. Elle avait coutume de dire « L'enfant n'est pas coupable, est coupable la société qui n'a pas donné à l'enfant, souvent maltraité, l'aide qui lui était nécessaire. » Qui lui est nécessaire. N'est-ce pas un précepte que nous aurions besoin de quelquefois de nous souvenir pour réfléchir justement à ces problèmes parfois sociaux d'actualité aujourd'hui. Et cette femme est bien très en avance sur son temps. Alors, elle est restée célibataire. Elle était tellement engagée, elle va mourir centenaire, centenaire. Toujours fidèle à ses idées socialistes et à son parti, après avoir défendu toute sa vie les droits des femmes et des enfants. C'est quasiment indissociable, la femme et l'enfant. Et il faut savoir que la ville de Périgueux lui a rendu hommage, est-ce que vous le saviez, en donnant son nom à une rue dans le quartier du Gourde-l'Arche. Un quartier avec un centre social extraordinaire, avec un mélange social aussi extraordinaire. Donc je vous invite à aller vous promener dans cette rue et dans ce quartier, et puis passer devant le centre social de l'Arche, où vous y rencontrerez une jolie jeune fille, en terre cuite, c'est l'œuvre du sculpteur Gilbert Privat, un homme très engagé aussi dans la Deuxième Guerre mondiale, un sculpteur qui a choisi le portrait et la silhouette de sa fille pour donc réaliser cette œuvre qui est donc la jeune fille éternelle, la femme. Et elle a été installée devant le centre social de l'Arche comme justement un symbole à toutes les femmes. Je vous remercie.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service ville d'art et d'histoire, ville de Périgueux.